Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Édouard Rosset.
Le samedi 11 décembre 2004, au palais de l'Institut de France à Paris, l'association professionnelle de la presse républicaine, fondée par le chancelier honoraire Édouard Bonnefous et présidée par l'historien Henri Amouroux, l'association a organisé une réunion publique au cours de laquelle Véronique Grousset, rédacteur en chef société au Figaro Magazine, a fait part de ses observations, réflexions et analyses sur la dernière élection présidentielle américaine qui a vu finalement la victoire de George Bush. C'est le fruit d'un reportage sur place de Véronique Grousset. Alors avant d'écouter son exposé, nous écoutons l'introduction d'Henri Amouroux.
Véronique Grousset est rédacteur en chef au Figaro Magazine, mais c'est d'abord, c'est essentiellement mon amie, une amie, je ne vais pas dire vis-à-vis d'elle de longue date, mais enfin quand même une amie de quelques années avec laquelle nous avons travaillé ensemble et je garde un souvenir très merveilleux de ces années où nous avions travaillé notamment sur les problèmes des jeunes. Ce n'est pas tout à fait mes problèmes, mais c'était ses problèmes. Et également, nous avions participé ensemble à toute une campagne qui avait été organisée par le Figaro Magazine au moment de la liberté de l'enseignement. Et nous avions, avec toute une équipe de journalistes, de jeunes journalistes, de journalistes qui débutaient dans ce métier, avec beaucoup de conviction, beaucoup de foi, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de croyance dans la valeur de ce qui est une équipe, de ce que devrait être une équipe journalistique, et non pas des décisions prises au sommet et appliquées d'une façon linéaire, souvent sommaire, toujours et parfois ridicule. Nous avions vraiment fait quelque chose de passionnant qui fait que les années sont passées et que nous sommes toujours restés profondément amis, profondément proches, voilà, dans la même conception de notre métier qui n'est pas un métier, qui pour elle, comme pour nous, comme pour beaucoup de ceux qui sont ici, était d'abord une vocation, car je crois que c'est ce qui est important. Il faut que ce que nous appelons métier soit un appel à l'origine et que nous considérions que la colonne vertébrale de notre vie, c'est ce métier merveilleux, quelquefois de plus en plus, même assez souvent de plus en plus difficile, mais en lequel il faut continuer à croire et pour lequel il faut continuer à se battre. Alors Véronique Grousset, qui dans le Figaro Magazine traite beaucoup des problèmes de société, beaucoup des problèmes, elle pourra d'ailleurs en dire un mot, beaucoup des problèmes de jeunesse, beaucoup des problèmes d'école, sous son nom, Véronique Grousset, ou quelquefois sous un pseudo, était aux États-Unis au moment des élections américaines. Il y est allé d'ailleurs à plusieurs reprises. Et donc, je lui passe immédiatement la parole. Et bien entendu, vous pourrez lui poser les questions que vous souhaitez avant que nous nous retrouvions pour un petit apéritif amical dans une salle voisine. Alors, Véronique, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Henri. Et merci à vous d'être resté ou venu pour m'entendre parler des États-Unis. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas vraiment une conférence. D'ailleurs, vous voyez, je ne lis pas un texte. Et je ne vais pas non plus vous parler de Bush ou de Kerry, parce que je ne suis pas une journaliste politique. Et après tout, ça ne me paraît pas le plus important. En tout cas, ça ne me paraît pas le plus... Ce qui appelle le plus de commentaires. En revanche, je vais vous parler beaucoup des Américains, parce que c'est avec eux que je vis, c'est eux que je vais voir, et c'est eux que j'écoute quand je vais en Amérique. Et j'ai été beaucoup frappée par le décalage entre ce qui a été dit ici des Américains, de la façon dont se comportaient les Américains, et ce que j'ai observé sur place. Nous avons trop tendance ici à considérer que les Américains, sous prétexte qu'ils sont des anciens Européens qui ont traversé l'Atlantique, sont des Européens, et à les regarder avec le prisme de notre propre culture. On a par exemple dit une chose essentielle à la suite de ces élections. On en a tiré globalement la conclusion que l'Amérique serait en train de virer à droite et serait de plus en plus conservatrice. Ça n'est pas du tout ce que j'ai pu observer sur le terrain, bien au contraire. L'Amérique a toujours été républicaine, en tout cas depuis 1968. Il y a eu bien sûr la parenthèse Clinton, il y a eu la parenthèse Carter, mais dans les deux cas, elle s'expliquait pour des raisons très ponctuelles. Carter avait été élu à la suite du scandale du Watergate, et Clinton parce qu'il y avait un troisième candidat conservateur, il y avait donc deux candidats républicains. C'est pour cette raison que, exceptionnellement, l'Amérique s'était dotée de présidents démocrates. Et comme vous le savez sans doute tous ici, de toute façon, il n'y a pas une différence colossale entre les démocrates et les conservateurs aux États-Unis. Et il n'y en avait pas non plus énormément, d'autant plus que Kerry n'avait pas vraiment de programme, lors de ces dernières élections. En revanche, il y avait une fracture au sein de l'Amérique, énorme, et que personnellement, je n'avais jamais observée à ce point jusqu'à présent, puisque ça fait à peu près un peu plus de 30 ans que j'ai fait ce métier, que j'ai exercé pendant 17 ans comme grand reporter et maintenant en m'occupant des questions de société, ce qui est un très bon biais pour essayer de comprendre la politique d'ailleurs. Donc je crois le connaître un petit peu et je n'avais jamais observé ça. Alors bien sûr, il y a eu le 9-11 qui est un traumatisme profond, mais pas forcément au sens où nous le comprenons aussi. C'est un traumatisme profond d'abord parce que c'est la première fois que les États-Unis sont attaqués sur leur sol. On ne peut pas comparer avec Pearl Harbor, qui était quand même extérieur, même si c'était un État américain, c'était quand même extérieur. C'est la première fois qu'ils sont attaqués sur leur sol, mais c'est surtout la première fois qu'un tel événement débouche sur un isolationnisme des États-Unis. Et c'est ça que les électeurs de Kerry ont voulu combattre, surtout ça. L'Amérique a découvert à la suite du 9-11, et non pas à l'occasion, parce que le 9-11, on a tous été solidaires, ça nous a tous bouleversés. Le monde entier était avec l'Amérique, mais ça n'a pas duré longtemps, comme vous le savez très bien, puisque Bush en a tiré la conclusion qu'il devait attaquer l'Irak, ce qui n'a pas été vraiment compris dans le reste du monde. Et à cette occasion, il y a eu un traumatisme très important chez les Américains. C'est qu'ils ont découvert qu'on ne les aimait pas forcément à l'extérieur. Et ça, ils ne le savaient pas du tout. Et c'est très important. C'est là que se situe la fracture. Aujourd'hui, Monsieur le Président parlait du développement d'Internet, et il a bien raison, parce que énormément d'informations et de mouvements de société et de mouvements d'opinion se déroulent maintenant par Internet. Et si vous jetez un œil sur les principaux sites Internet américains, vous vous rendrez compte que l'Amérique démocrate s'exprime aujourd'hui pour s'excuser devant le reste du monde d'avoir réélu Bush. Alors on pense qu'on veut de Bush ou de Kerry. Personnellement, moi, je n'ai pas d'opinion. Ce n'est pas le problème. Mais ce que je constate, c'est que Bush a fédéré un véritable mouvement contre lui et non pas pour Kerry. Kerry n'était pas un bon candidat en cela qu'il était trop bostonien. C'est vrai, pas seulement trop élitiste, mais trop bostonien. Il faut arrêter de se moquer des Américains en disant « ils ont élu le brave type avec qui ils veulent boire une bière ». Il faut regarder les choses en face. C'est vrai que Bush était beaucoup plus proche des considérations des gens, et pas seulement sur les valeurs morales, j'y reviendrai, que Kerry. Quand vous regardez les photos de Bush dans la presse française, les photos de Bush ou de Kerry, ça saute aux yeux. Vous voyez Bush en jean, avec une chemise bleue, avec une tronçonneuse, en train d'abattre son bois. Et vous voyez Kerry, franchement, il a avalé un parapluie. Hein. Ça ne passe pas du tout en Amérique. Et pas seulement en Amérique profonde. Ne confondons pas. On sait que les États bleus, c'est-à-dire les États démocrates, sont essentiellement ceux de la côte ouest, la Californie et les autres, et ceux de la côte est, le New Hampshire, le Maine, le New York, évidemment, Washington aussi. Mais pas seulement. Quand on regarde le décompte des voix, on s'aperçoit que beaucoup d'États de l'Amérique profonde ont massivement voté pour Kerry. En règle générale, pour schématiser, toutes les grandes villes ont voté pour Kerry et toutes les campagnes ont voté pour Bush. Hein. Et pas autant qu'on l'a dit non plus sur les valeurs morales. Pourquoi je me permets de dire ça? D'abord parce que les discours sur les valeurs morales n'étaient pas très éloignés dans un cas comme dans l'autre. Et ensuite parce qu'il y a eu beaucoup de référendums particuliers. Comme vous le savez sans doute, les élections américaines, au cours des élections américaines, on ne vote pas seulement pour le président, mais on vote aussi pour des juges, pour des shérifs et pour des référendums locaux. Et dans beaucoup de cas, les référendums locaux ont confirmé les choix de société libéraux des Américains. Libéraux, que ce soit sur le mariage des gays. Bon, il y en a eu 11 sur le mariage des gays qui ont quand même interdit le mariage des gays. Mais pour l'avortement, par exemple, les Américains
à l'instar des Français d'ailleurs, à l'instar des Français, désapprouvent l'avortement, mais ne veulent pas l'interdire pour autant. Et c'est ce qui est apparu dans tous les référendums locaux. Et c'est ce qui apparaîtra aussi, probablement, dans les jugements de la Cour suprême. Alors, il y a une fracture en Amérique, énorme, aujourd'hui. On avait déjà parlé à l'occasion de l'Amérique, on a parlé souvent à l'occasion de l'Amérique de la thèse des deux nations. Ça date de la fin des années 30, avec le procès de Sacco et Vanzetti, qui étaient des anarchistes. Et le mot est de Dos Passos. Il avait dit « All right, we are two nations ». Quand Sacco et Vanzetti sont passés à la chaise électrique, ou je ne sais plus quel était le mode d'exécution de l'époque. Cette fois-ci, c'est un peu vrai aussi. C'est un peu vrai aussi, mais encore une fois, pas sur ce que nous croyons. Pas sur ce que nous croyons. L'Amérique a découvert donc que le reste du monde pouvait lui être hostile. L'Amérique a découvert que le reste du monde la considérait parfois comme réactionnaire et xénophobe, et l'Amérique le vit très mal. Et c'est ça qui a fait que quand même, presque 50% des Américains ont voté pour Kerry alors qu'il n'avait pas de programme et alors qu'il était un mauvais candidat. Et alors que l'Amérique ne vote pas pour les démocrates en règle générale. Donc mon sentiment, contrairement à ce qui a été beaucoup écrit, c'est que s'il y a une conclusion politique dans cette affaire, c'est sûrement pas que l'Amérique vire à droite. Au contraire. Toute chose égale. C'est-à-dire que ce que nous appelons, moi je passe mon temps en Amérique à expliquer que je suis de droite, et à l'aise en étant de droite, et quand on me demande, alors par rapport à nous, tu es quoi? Je dis, alors je suis à l'extrême gauche de Kerry. Hein? Toute chose égale par ailleurs. L'Amérique de gauche est une Amérique qui, en France, serait considérée comme de droite. Surtout, compte tenu de la politique de droite que nous menons. Hein? Bon... Ce sont des valeurs, donc il faut se méfier des interprétations. Et il ne faut pas perdre de vue que cette Amérique ne demande qu'à se réconcilier avec le reste du monde, y compris Bush d'ailleurs, y compris Bush. Beaucoup d'analystes américains ont relevé que Bush avait commencé à essayer de renouer des relations diplomatiques plus cordial avec le reste du monde et notamment avec l'Europe pendant la campagne. Alors que pendant cette campagne, il avait joué pourtant sur l'argument anti-français en faisant passer Kerry pour français, mais dans la coulisse, il avait déjà commencé des négociations. Et il continue à travailler, il travaille plus que jamais avec l'Europe sur les autres terrains que l'Irak. Car n'oublions pas que l'Amérique est en guerre sur quatre fronts. Sur l'Irak, bien sûr, mais aussi sur l'Afghanistan. Et dans une moindre mesure, et uniquement parce qu'elle n'a pas les moyens matériels d'y être physiquement, en Corée du Nord et avec l'Iran. Donc elle ne peut pas se permettre de continuer dans l'isolationnisme et dans l'arrogance. Donc il est plus que probable que le second mandat de Bush ne ressemblera pas sur ce plan au premier. Il sera probablement beaucoup moins isolationniste, beaucoup moins arrogant. Mais ça, bon, on le verra. De quoi je voulais vous parler encore sur la fracture? Oui, il y a la fracture, il y a plusieurs niveaux de fracture aux États-Unis. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les électeurs démocrates sont dans un état de désarroi qui est très inhabituel. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec Internet, pas seulement les jeunes d'ailleurs, Monsieur Cluzel, parce que j'observe que de plus en plus, cet outil qui présente des qualités de rapidité incroyables et d'accessibilité des informations est utilisé un peu par tout le monde, peuvent essayer de se connecter sur un site qui s'appelle sorryeverybody.com, en un seul mot, S-O-R-Y-E-V-E-R-Y-B-O-D-Y, sorryeverybody.com, qui a été lancé dès le lendemain de l'élection, tout à fait involontairement, par un étudiant californien qui a affiché son autoportrait, une photo de lui, sur le site de son université, un étudiant en neurosciences de 20 ans, avec un petit mot d'excuse au reste du monde, et qui disait « Sorry, we have tried half of America ». C'était signé « la moitié de l'Amérique ».« Excusez-nous, nous avons essayé la moitié de l'Amérique ». Le lendemain, Monsieur Cluzel, pour vous donner une idée de l'importance d'Internet, donc c'est une université californienne d'une importance moyenne, sur 82% des connexions de la journée, soit, ça va vous faire peur, 2,1 millions de connexions d'internautes, s'étaient connectés uniquement pour voir le message de James Slattin, lui répondre ou l'imiter. Lui répondre, parfois pour le critiquer d'ailleurs, parce que dedans il y avait des conservateurs qui ne comprenaient pas cette démarche. Lui répondre ou l'imiter. Donc le recteur de l'université a très vite prié ce jeune homme de créer son propre site, parce qu'on ne pouvait plus appeler l'université. Et à ce jour, il y a des millions de photos qui sont arrivées, exactement sur le même modèle, de toute l'Amérique, avec le même type de message, parfois très drôle, parfois long, parfois très court. Il y a de tout, il y a des enfants, il y a des chiens, il y a des types avec leurs canettes de bière. Et ils s'excusent envers le reste du monde. Et c'est très intéressant, cette démarche. C'est très intéressant parce que là, on retrouve encore l'importance des arguments que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir l'importance du traumatisme de cette Amérique, libérale ou pas, de se sentir mal aimé du reste du monde. C'est ça, aujourd'hui, qui se passe en Amérique. Et ça, c'est très, très nouveau, parce que les Américains n'avaient jamais eu, jusqu'à présent, l'occasion de constater qu'ils n'étaient peut-être pas aimés. Nous, en France, nous avons tendance à être volontiers anti-américains. Mais les Américains ne sont pas du tout anti-français. Même après le malentendu sur la guerre en Irak, sur lequel je reviendrai légèrement, qui est très important, il y a un malentendu total. Chaque fois que je me suis promenée aux États-Unis, même en Amérique profonde, je n'ai jamais rencontré d'Américains qui soient hostiles envers moi. Jamais, jamais, jamais. Il faut se rendre compte que ce qui s'est passé avec l'Irak est incompréhensible pour les Américains, y compris pour les élites. J'étais à New York au moment de la Convention républicaine, et qui était également le troisième anniversaire du 9/11. Donc nous en avons beaucoup parlé, évidemment, avec tous les gens que j'ai rencontrés. Et les New-Yorkais sont profondément démocrates. Je ne sais plus à combien, mais enfin, c'est de l'ordre de 80%. 74% des New-Yorkais avaient, par exemple, protesté officiellement contre la tenue d'une convention républicaine dans leur pays, dans leur ville. C'est vous dire le climat. C'est aussi la ville où l'on trouve le plus d'ouvrages critiques contre la gestion des attentats, contre le fait qu'effectivement l'administration Bush a menti sur pas mal de choses, et c'est là où on est le mieux informé sur ce qui s'est passé. Et bien pourtant, à chaque fois, il a fallu que j'explique que le 9/11 n'avait aucun rapport avec l'Irak. Les Américains ne le savent pas. Donc c'est très difficile de leur expliquer pourquoi nous, les Français, nous étions massivement contre une intervention en Irak, puisque nous savons qu'il n'y a pas de rapport entre Al-Qaïda, s'il y a bien un rapport, c'est avec l'Arabie Saoudite, mais pas avec l'Irak. D'abord, il n'y a pas de rapport avec le 9/11. Deux, que l'Irak était le seul pays laïque de la région et que ce n'est peut-être pas une bonne idée de le déstabiliser. Et trois, que des armées chrétiennes ne peuvent en aucun cas rester sur une terre musulmane sans avoir de gros problèmes pour y rester. C'était notre argumentation. Mais ça, il faut l'expliquer aux Américains. Même les Américains des élites ne connaissent pas ces trois arguments. Ils continuent, dans leur immense majorité, à penser que l'Irak a abattu les Twins. Vous comprenez? Et ça, ça vient en grande partie aussi, contrairement à ce qu'on croit souvent ici, pour reprendre ce que disait Henri sur le journalisme, j'ai longtemps cru, comme jeune journaliste, que les États-Unis étaient un exemple en matière d'information. Et j'en suis revenue. J'en suis revenue parce que je constate que ils ne sont pas si bien informés que ça, et qu'ils le sont de moins en moins bien. Alors, je ne parle pas seulement de chaînes comme Fox, qui désinforment complètement. On a fait un sondage sur les auditeurs de Fox et les auditeurs de CNN, par exemple, et on s'est aperçu que 70% des auditeurs de Fox, étaient convaincus qu'il y avait des armes de dissuasion massive en Irak. C'est vous dire à quel point ils sont désinformés par cette chaîne de télévision, dirigée par l'Australien Rupert Murdoch, et tellement républicaine que c'en est grotesque. Ce serait impossible en France, ça. Même compte tenu de la déliquescence où est notre métier depuis quelque temps. Et quant à l'Amérique profonde, elle ne lit que les journaux locaux. Et dans les journaux locaux, il n'y a presque rien. Même s'ils sont très épais et que vous prenez une fracture, si vous le prenez sur le pied le dimanche, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Vous seriez sûrement étonné de la médiocrité de la presse. Et ce phénomène commence à gagner les grandes chaînes ABC, CBS, et c'est dénoncé par un journaliste notamment qui vient de faire un excellent livre, que je n'ai pas encore lu, mais paraît-il, j'ai lu les bonnes pages en tout cas, sur la chute des médias américains qui sont de plus en plus à la recherche de l'audience et qui font de plus en plus des sujets sans enquêter. Et les Américains de l'élite commencent à s'en rendre compte, notamment à New York. La moitié des pancartes contre la Convention républicaine attaquaient les médias en reprochant d'être désinformés. Et c'est vrai que les New-Yorkais ont été considérablement désinformés sur la gestion des attentats, sur le fait qu'on aurait pu les éviter, sur tout ce qui s'est passé avant, sur tout ce qui s'est passé après. Hein. Et c'est aussi ce qui explique malheureusement que le sud de Manhattan, par exemple, fasse toujours peur et soit devenu presque un désert économique, parce qu'ils ont peur notamment de la pollution, puisque on leur a tellement menti sur d'autres choses qu'ils croient, et peut-être à raison, j'en sais rien, que le sud de Manhattan est totalement pollué par l'atomisation de tous ces ordinateurs, de tous ces matériaux qui ont été réduits en poussière et qui se sont répandus sur tout le sud de Manhattan. Et ce qui fait qu'il n'y a eu que 2000 morts, si je puis dire, que 2000 morts dans les tours, mais il y a 100 000 employés qui ont fui le sud de Manhattan, qui est devenu vraiment un désert économique, hein, sur presque 30 hectares, ce qui est colossal, évidemment, à l'échelle de Manhattan. Voilà, j'ai sûrement oublié des tas de choses, mais on les abordera au cours des questions que vous me poserez peut-être. Alors la religion, là aussi, on se trompe. Effectivement, les États-Unis sont très religieux, mais pas du tout la religion que nous pensons être. Guy Sarman en parle très très bien dans son dernier livre, oui. Made in USA.
C'est un très bon livre.
C'est un magnifique reportage qui vraiment bourré d'anecdotes, extrêmement juste, enfin, en tout cas qui me paraît extrêmement juste par rapport à ce que moi j'ai pu constater sur place. Je vous en recommande la lecture, Made in USA par Guy Sarman, qui est sorti il y a 3-4 mois. Un peu avant les élections. Il en parle fort bien de la religion, il a entièrement raison. La religion américaine ne ressemble en aucune façon à la nôtre. Ils se sont fait, d'abord c'est une religion du bonheur, de quête du bonheur. C'est beaucoup plus proche du bouddhisme, y compris chez les WASP, chez les chrétiens, que d'autres choses. C'est une espèce d'animisme, c'est un mélange de plein de religions. Ils n'en gardent que ce qui les intéresse, le bonheur immédiat, la quête du bonheur immédiat. On ne parle pas non plus des figures bibliques, c'est-à-dire, par exemple, vous entendrez sans arrêt Bush parler de la confiance en la foi, mais vous n'entendrez jamais citer Jésus. Jamais. Et pourquoi ? Parce que c'est une religion complètement informe et qui ne serait certainement pas reconnue chez nous, qui mélange tout. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'antagonisme entre les différents types de croyances, parce qu'elles se mélangent toutes. Et c'est aussi pour ça que les Américains ne comprennent pas notre réaction. Parce que eux, quand ils parlent musulmans, ils pensent aux leurs, qui sont totalement américains, et qui peuvent parfaitement exercer leur religion en face du World Trade Center à New York. Il y a une immense librairie à côté du Hilton, et dont la caissière est voilée. En France, ce serait inconcevable. Ce serait considéré presque comme une provocation. En Amérique, ça ne choque personne. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un islamiste. Et ils ne peuvent pas le savoir. Parce que les musulmans chez eux ne se comportent pas en fondamentalistes. Ils n'ont pas de problème religieux. Chacun exerce sa religion dans la tolérance. Et c'est ce qui caractérise le mieux d'ailleurs les Américains, cette tolérance. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont tous basiquement Américains. Ce que nous, en Europe, nous ne sommes pas forcément. Il y a des communautarismes en France qui n'existent pas aux États-Unis. Chacun garde ses caractéristiques. Il y a parfois même des phénomènes de discrimination positive qui exacerbent ces caractéristiques. Il n'empêche que tout le monde est basiquement Américain. Et se revendique comme tel et est heureux de l'être, ce qui n'est pas forcément le cas, malheureusement, de l'Europe. Alors ça aussi, quand on essaie de comprendre avec notre mentalité le prisme de notre culture, on ne peut pas le comprendre. Et c'est pour ça aussi que dans la presse de ce matin, j'écoutais sur Europe la revue de presse internationale, on parlait beaucoup de la façon dont la France essaye de gérer son problème de laïcité. Et ils ne le comprennent pas, les Américains. Ils ne le comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas de problème, eux. Ils n'ont pas il serait inconcevable que, comme chez nous, les problèmes de voile débouchent sur des problèmes de cohabitation entre les lycéens, entre les étudiants. Vous comprenez ? Et ça, ça fait partie des choses que nous n'arrivons pas à comprendre et qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Or, il est temps qu'on se comprenne un petit peu mieux. Ne serait-ce que parce que les Américains, dans leur immense majorité, ne demandent que ça, qu'ils soient conservateurs ou libéraux. Chez les libéraux, c'est une demande désespérée, comme on le voit à travers le site dont je vous ai recommandé la vision, là, Sorry Everybody. Et chez les républicains, c'est une simple demande. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne les aime pas. Ils ne comprennent pas. En plus, pour l'Irak, je vous signale que quand on regarde les télévisions américaines, les Américains ne peuvent pas comprendre ce qui s'y passe. On n'a pas l'impression de regarder les mêmes reportages. Regardez CNN le matin pour ceux qui peuvent le capter, c'est-à-dire tous ceux à peu près qui ont la télévision par câble ou par satellite, vous serez frappés. Les reportages qu'il y a sur l'Irak, c'est à peu près ce qu'on aurait pu faire à la libération de la France. C'est-à-dire des enfants irakiens qui peuvent enfin retourner à la piscine, qui peuvent enfin aller dans un conservatoire, des Américains qui viennent aider les mamans à distribuer des vivres, des populations qui accompagnent les chars, toutes contentes. Enfin, bon, c'est très rarement des visions, il y en a, mais c'est très rarement les reportages que nous voyons sur nos chaînes, avec les civils tués, les soldats américains sur des civières, le sang, la terreur et la guerre. Non, c'est la libération, vous voyez, sur les chaînes américaines. Et quand je parle des chaînes américaines, encore une fois, je ne parle pas que de Fox. Je parle de toutes les grandes chaînes. Ce sont des reportages sur la libération de l'Irak. Donc évidemment qu'ils ne comprennent pas. Donc essayons d'être plus ouverts, plus attentifs. Et là, je vous parle en journaliste société. Encore une fois, je ne suis pas une journaliste politique. Essayons de comprendre les autres. Si nous voulons continuer à travailler ensemble, et je crois que c'est crucial. On ne peut pas ne pas être avec l'Amérique, quelle que soit sa couleur politique. Encore une fois, peu importe. L'Amérique est basiquement, en plus, c'est notre modèle. Comme le dit aussi très bien Sormand dans son livre Made in USA, on ne peut pas se dispenser de comprendre l'Amérique parce que ce qui se passe en Amérique nous arrive tout le temps, 3 ou 4 ans plus tard. Donc soyons attentifs à ce qui se passe en Amérique, essayons de le comprendre. Et essayons de comprendre les Américains, qu'il s'agisse de la religion ou du reste.
C'était Véronique Grousset, rédacteur en chef société au Figaro Magazine, invitée de l'Association professionnelle de la presse républicaine, fondée par le chancelier honoraire Édouard Bonnefous, actuellement présidé par l'historien Henri Amouroux. Véronique Grousset, de retour d'un reportage des États-Unis en marge de la récente et dernière élection présidentielle américaine.